Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ces derniers temps, j'ai eu à cœur un sujet particulier, un sujet d'actualité, un sujet qui est un fait sociologique, mais aussi qui touche, eh bien, qui n'épargne pas non plus le peuple de Dieu, les chrétiens. Nous allons découvrir ce sujet à travers deux lectures qui se suivent dans le psaume 102 et le psaume 103, enfin une toute petite partie du psaume 103. Vous allez découvrir avec moi eh bien, ce dont il s'agit. Et c'est vrai que j'avais ce fardeau sur le cœur parce que c'est un sujet de perplexité pour les hommes. C'est un sujet de perplexité aussi dans le peuple de Dieu. Mais si la Bible nous en parle, c'est qu'il y a des solutions, il y a des réponses et il y a des délivrances. Alors nous allons lire d'abord le psaume 102. Nous allons le lire entièrement. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne déteigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du lieu des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel, et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole ce matin. Alors c'est une lecture qui est prenante. En la lisant, en l'écoutant, en prononçant ces mots, eh bien, on sent qu'il y a là, en effet, quelque chose de pathétique, mais il y a aussi tout un enseignement pour chacun d'entre nous. Il est un mal sournois qui est le fléau de notre temps, de notre siècle, parmi tant d'autres tourments propres à l'homme moderne, qui a été décrit de façon saisissante, et il y a de cela environ 3000 ans, par le psalmiste. Et vous avez remarqué avec moi, ce psaume commence de cette manière, « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte. » Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous allons développer notre réflexion, et derrière cette réflexion, eh bien, il y a des encouragements, il y a des exhortations, il y a un renouvellement de notre communion avec le Seigneur, de notre vie spirituelle. Il y a des mots terribles qui sont aujourd'hui, hélas, trop courants dans notre société. C'est le mot dépression, angoisse et anxiété. C'est un véritable mal. C'est un véritable fléau de notre monde d'aujourd'hui. Et dans notre civilisation que nous pourrions qualifier de supramatérialiste, de frénésie en tout genre, où les gens, eh bien là, passent d'une chose à une autre, parce que il faut bien reconnaître, si vous me permettez cette expression, on est quand même dans une société zapping, où là, eh bien, finalement, tout va très vite, eh bien, on s'aperçoit que le stress n'épargne personne. Et quelquefois, même les gens les plus équilibrés, à la suite peut-être d'un chavirement de situation, d'un incident ou d'un accident, des gens que l'on croyait solides, eh bien les voilà par terre, tout simplement. Si l'on regarde les données que nous fournissent les sociologues, de quelques, et c'est quand même pas quelque chose d'insignifiant, de quelques millions d'ordonnances, il y a 10 ans, les prescriptions d'antidépresseurs et de toutes sortes de choses semblables, de somnifères, ont quasiment doublé dans notre pays, qui finalement bat avec les États-Unis le record de consommation, eh bien là, pour ce genre de médicaments. Et nous pouvons nous en inquiéter, parce que on s'aperçoit que cela aussi a une incidence et une pénétration parmi le peuple de Dieu. Je crois que le mot fléau, eh bien, est le mot juste, car le phénomène n'entraîne non seulement un mal-être de vivre, et avec tous les inconvénients, eh bien, qu'il véhicule, mais c'est aussi un véritable raz-de-marée d'en finir avec la vie. Et c'est vrai qu'on entend très très souvent autour de nous, eh bien, des gens qui nous disent, eh bien voilà, un tel s'est suicidé. Un tel s'est donné la mort, il ne pouvait plus vivre, il ne pouvait plus supporter ceci et cela. Alors, c'est vrai que là, eh bien, ça fait partie de notre, hélas, de notre vocabulaire et de ce que nous entendons très fréquemment. Les chiffres sont connus, plus ou moins, approximativement 250 000 tentatives de suicide, recensées parmi lesquelles il y a plus de 12 000 personnes. Eh bien, 12 000 désespérés qui parviennent finalement à leur fin chaque année. Et parmi tous ces gens, il y a, c'est vrai, des gens d'âge mûr, hein, des gens dans la vie, des gens dans l'âge, tout simplement, et puis il y a aussi des jeunes. Et quelquefois, nous entendons des nouvelles qui nous font trembler lorsque nous voyons qu'il y a parfois des enfants de 10, 12 ans. On apprend eh bien, qu'ils mettent fin à leur jour. Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable, me semble-t-il. Différent des autres souffrances, parce qu'il y en a des souffrances, il n'y a pas que celle-ci naturellement, la dépression a son origine dans l'identité intérieure des gens, ce que la Bible appelle l'âme. Et il est bon d'en parler. Alors ce matin, ça va être très pratique. Je veux que ça soit très pratique parce que c'est bien la théologie, il faut connaître, connaître, connaître. Et nous sommes appelés à connaître. Mais je pense qu'il y a une connaissance stérile et puis il y a une connaissance utile. Une connaissance spirituelle des choses. Et je crois que nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes. Nous avons besoin de connaître le Seigneur, nous avons besoin de connaître dans quel monde nous vivons. Et puis nous avons besoin de connaître à la fois les mots qui nous frappent, et nous avons besoin de connaître les réponses, les solutions et les remèdes que Dieu nous donne. Et je pense que le diable, lui, veut finalement renfermer les hommes, et aussi particulièrement les chrétiens, dans une sorte d'ignorance pour les mettre en prison pour qu'ils restent malheureux, qu'ils traînent leur misère, qu'ils traînent leur souffrance. Ils connaissent la Bible, ils connaissent le Seigneur, ils ont la foi, mais ils mentent. Eh bien, le petit plus qui les amène véritablement, eh bien, comme dans le psaume, à crier vers le Seigneur et à recevoir la délivrance de Dieu. Alors, il ne faut pas faire que la moitié de la route. Et quand je priais, je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Alors, j'ai été conduit naturellement, finalement, à parler de cela. Nous sommes dans le ministère à même d'entendre beaucoup de choses, de converser avec beaucoup de gens, et puis d'observer aussi, parce que tout n'est pas dit, mais il y a des choses qui se voient. Et parfois, dans le peuple de Dieu, il y a des vies qui sont un petit peu arrêtées, qui sont là, en stationnement, parking, et où il y a derrière de véritables souffrances. Et ça, on ne peut pas passer à côté, surtout quand le Seigneur nous les montre. Et puis, je crois qu'une des réponses, c'est aussi la prédication. Parce que la parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu est là pour nous stimuler, nous dire, eh bien, il y a encore de l'espoir. Fais marcher ta foi et réagis dans la foi. Et le Seigneur, eh bien, va répondre. Alors, nous voyons que la dépression, comme nous le disions il y a un instant, a son origine dans l'identité profonde des gens, l'âme. Et l'âme, c'est le siège de la personnalité humaine. Nous pouvons être atteints physiquement, et vous avez des douleurs physiques, n'est-ce pas ? On en a. Et plus on vieillit, plus on en a. On nous a prévenus. Alors, comme ça, on sait à quoi s'attendre. Et ça commence déjà pour certains. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est celle qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vrai que la vie nous a marqués, et a marqué plusieurs d'entre vous. Il y a toutes sortes de choses qui nous ont blessés. Ça ne paraît pas à l'extérieur, mais néanmoins, c'est quand même là. C'est quand même là, avec ses conséquences. Le mal est donc dedans, et il est souvent insaisissable. On n'est pas bien. On se dit, mais pourquoi je ne suis pas bien ? Quand on a un mal physique, on va chez le médecin, et voilà, il regarde, il diagnostique, et puis c'est clair. Enfin, autant que vous ayez un bon médecin qui sache les choses. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus repérable. Mais ce qu'il y a, les blessures, les meurtrissures, le mal-être, le mal-vivre, le malaise, à l'intérieur, c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tête ? C'est le cœur ? C'est quoi ? C'est quoi ? On se pose des questions. On s'interroge. Et les questions que nous nous posons, la perplexité devant laquelle nous sommes confrontés, eh bien, n'arrange pas les choses. Et il y en a un qui s'évertue à nous mettre sur de fausses pistes aussi. Alors s'il peut y arriver, il y arrive assez facilement. Et c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre à celui qui est étranger à tout cela. J'ai remarqué que déjà, celui qui vit cela, il n'est pas toujours au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis ceux qui vivent à côté ne sont pas toujours aptes à saisir finalement ce qui se passe auprès de ceux qui sont dans leur environnement. Et permettez-moi de dire, comme nous l'avons lu dans notre texte, c'est un mal, frères et sœurs, qui se vit seul, qui se vit souvent seul. C'est vrai cela. L'auteur du psaume savait bien ce qu'était l'anxiété. Il était en mesure d'énumérer quelques-unes des causes de sa dépression, et c'est ce que nous avons lu, nous avons fait un survol de tout cela. Et c'est vrai que l'homme de notre temps, l'homme moderne, cherche des solutions pour échapper à l'angoisse et en sortir. Mais les solutions qu'il essaie ne sont pas toujours efficaces. Alors il a essayé l'oubli. On a essayé les étourdissements, on a essayé également l'abrutissement dans le travail ou dans les médicaments, dans toutes sortes de choses, dans le bruit, dans l'alcool, dans la drogue. Et quelquefois, ce mal sournois à l'intérieur nous amène dans un domaine, sur un terrain spirituel, mais qui n'est pas le bon terrain spirituel. Voyez ce que je veux dire ? Les angoissés sont des gens qui fréquentent les cabinets obscurs. Ils voudraient bien savoir. Ils voudraient bien savoir ce qui va leur arriver. Et c'est une clientèle, ça, pour ce monde de l'astrologie et de l'occultiste. D'autant que ces problèmes qui l'obsèdent n'ont pas de solution humaine, parce que vous savez aussi bien que moi qu'à un mal spirituel, à un mal de l'âme, il faut une réponse spirituelle. Et si vous y appliquez l'emplâtre, du naturel ou de tout ce qui fait partie finalement de la panoplie humaine. Eh bien non, je dis qu'il faut à ce mal-là eh bien, des réponses spirituelles, parce que le mal est spirituel. Dans bien des cas, c'est le vide. Pour ceux qui l'ont connu savent ce que ça veut dire. Le vide de l'existence, l'absence de destination réelle. Et c'est peut-être là justement un problème où les chrétiens doivent se poser des questions, parce que nous avons une destination. Alors, si véritablement c'est un problème de cette nature, il faut que nous puissions nous empoigner de dire « Mais Seigneur, je suis sauvé. Je sais où je vais. » Un sens, une signification à donner à la vie, un sens et une signification qui manquent à notre vie. Et croyez bien que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions avoir des réponses dans ce domaine. D'ailleurs, et ça c'est assez étonnant, c'est que les plus dépressifs sont quelquefois des individus qui apparemment ont réussi leur vie. Et qui n'ont pas somme toute de gros problèmes. Il y a bien sûr ceux qui sont là écrasés par la misère de la vie et qui là sont profondément embourbés. Mais on s'aperçoit que dans notre monde, et parfois aussi dans le monde des chrétiens, eh bien, apparemment, il n'y aurait pas de cause réelle. Je parlais avec une jeune fille qui était en dépression encore très très dernièrement, que nous connaissons bien, et ses frères et sœurs lui disaient aussi, « Mais tu as tout autour de toi. Tu as tout. » Elle passe un moment difficile. On se cherche dans la vie, et surtout quand on est jeune adulte, quand on est enfant, vivons l'ignorance et l'innocence, mais après ça change. Hein. Et c'est vrai que parfois, eh bien, on trouve ce genre de dépression, d'état dépressif pour des gens qui ont réussi, qui ont ce qu'il faut dans la vie, et qui disposent d'un certain bien-être, quelque part, mais ils ne savent pas utiliser les choses, et ils ne savent pas voir que c'est Dieu qui leur a donné. Ils ne savent pas reconnaître que finalement, eh bien, cela, comparativement à d'autres qui, eh bien, là, auraient de quoi se plaindre, eh bien, ne savent pas le reconnaître. Pour tous les hommes et pour le croyant, la dépression frappe. Et c'est vrai que ça peut nous arriver. Moi, je ne suis pas du genre, en tant que pasteur, à dire « parce que vous êtes chrétien, vous ne passerez jamais par la dépression ». Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'horripile. Ah, vraiment, ça m'horripile, parce que moi, j'y suis passé plusieurs fois depuis que je suis chrétien. Alors, je sais de quoi je parle, et je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors, qu'on vienne pas me dire, faut que tu te secoues, faut que tu ceci, cela, etc. Hein? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas passés, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Alors, quand on ne sait pas quelque chose, on se tait. Excusez-moi, ça vous dérange pas que je dise ça? Non, mais ça, c'est quelque chose qui... Alors, c'est vrai qu'on peut dire, t'es chrétien, tu devrais avoir la foi, tu devrais ceci et cela, etc. Bon, ça va. Alors, j'ai cette prière au fond de mon cœur. Écoute, Éternel, ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. C'est pas, et ça peut pas arriver à un chrétien de prier comme ça. Ben, la preuve, puisqu'on l'a dans un psaume, c'était un croyant qui disait ça. Le ressenti, c'est l'oppressant silence du ciel. Écoute, ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Qu'est-ce que fait Dieu pour délivrer? Et quelquefois, on se pose la question. Mais Seigneur, tu vois pas que je suis malade? Tu vois pas que je suis pas bien? Et ça dure, et ça continue, et je crie à toi, et il n'y a rien. Ne cache pas ta face au jour de ma détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Oh, silence! Eh bien, s'ajoute l'absence de Dieu dans notre temps de dépression ou d'angoisse. Le sentiment affreux que nous pouvons avoir d'abandon, d'être seul et vraiment seul. Et pourtant, je suis un croyant. Et pourtant, je suis un chrétien. Je sais que Dieu est au ciel, il est près de moi. Il est au ciel, il est sur la terre, puisqu'il m'a promis qu'il était tous les jours là. Et pourtant, ce que je ressens est le contraire de ce que je sais et de ce qui est écrit dans la parole. Alors, parmi peut-être les causes inconscientes, souvent inconscientes, d'un état de malaise, c'est ce que nous ressentons, ce que nous pouvons ressentir à certaines périodes de notre existence, c'est la brièveté de la vie, peut-être une cause de déconsidération, finalement, de l'existence. « Car mes jours, dit le psalmiste, s'évanouissent en fumée. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. » Est-ce que nous n'avons pas quelquefois eu le sentiment que c'est tellement vapeureux tout ça? Eh oui, notre vie. Il y a des moments dans notre vie où C'est comme s'il y avait une fuite, la fuite des jours, et on sent que pff, c'est vraiment, on n'est qu'une vapeur, on n'est pas grand-chose. Ça passe tellement vite. Et plus l'âge avance, et je sais que certains ne vont pas dire le contraire, plus nous luttons contre le processus du vieillissement et de la mort en regardant derrière soi, et plus on est à même, finalement, de faire le bilan du chemin parcouru. Et on se dit, mais finalement, mais qu'est-ce que ça passait vite ? Eh oui, nous sommes des êtres finis, nous sommes entre une naissance et puis un départ, c'est inéluctable. Et puis, quand on a quelques 20 années, on se dit, oh là là, oh, qu'est-ce que ça va être long ? Puis quand on arrive vraisemblablement, moi je suis au milieu, quand on arrive vraisemblablement à l'autre bout, enfin j'ai passé le milieu, hein. Oui quand même, enfin, faut être modeste. Et quand on regarde, on se dit, qu'est-ce que ça passait vite. Et vous savez, les repères que nous avons, ce sont nos enfants. Hein. Oh là là, ils ont grandi les petits. Hein. Et ça, c'est quelque chose. Et on peut avoir ce sentiment au fond de son cœur de toute cette brièveté que les années nous paraissent éphémères et fugitives. Ouais. Le paradoxe, c'est que les jours de souffrance n'en finissent pas et que les jours heureux s'envolent très vite. Ça va vite. Et quand on souffre, c'est long. Hein. Quand on souffre physiquement, quand on souffre moralement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est long. Hein. Vous avez certainement connu des nuits qui étaient très très longues. Hein. Et pourtant, ça dure le même temps que tout le reste. Et c'est long. Et mes os sont enflammés comme un tison, nous dit la parole de Dieu. Mes os, alors là nous parlons du physique. La santé chancelante est une autre raison de la dépression. Et frères et sœurs, vous qui souffrez physiquement, parce que je l'ai entendu, ne vous culpabilisez pas si quelquefois vous passez par des états de dépression. Parce que vous souffrez physiquement, parce que la souffrance physique peut nous entraîner aussi à une souffrance morale. C'est vrai, lorsque nous sommes jeunes, nous brûlons notre énergie sans penser que toute dépense inconsidérée aura ses conséquences dans l'avenir. Quelquefois, on l'a fait, mais quand on était jeune, puis qu'on se sentait en pleine force, alors quelquefois ça explose. Chez les garçons particulièrement, parce que... Hein, et là, on voit, mais ils font des choses extraordinaires. Hein, ils peuvent passer des nuits, etc., etc. Mais souvenons-nous que peut-être un jour, on se dira, mais... Regret d'avoir gâché peut-être des choses qui pourraient nous servir aujourd'hui, mais c'est fini. Hein. L'angoisse est comme un feu couvert qui couve lentement, mais inexorablement, et qui va détruire, finalement. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, ajoute le poète. Le cœur, au sens moral du terme, c'est la volonté, c'est la décision, c'est la force intérieure. Et quand le cœur est frappé d'angoisse, il nous met dans l'incapacité de réagir normalement. Oui, en d'autres temps, quand on se sent bien, on aurait fait ceci, on aurait fait cela, lucidement, logiquement, on aurait pris telle et telle décision. Et on s'aperçoit que quand vraiment notre cœur est frappé, on se trouve dans une certaine impossibilité, j'ai dit incapacité de réagir comme on devrait réagir. Alors, Dieu soit béni quand on a des gens autour de nous qui nous aiment et que nous aimons et qui nous aident à prendre des décisions qu'on n'est plus capable de prendre. Et Dieu fait grâce aussi dans ce domaine. Il m'est arrivé de passer par ces moments, où j'en pouvais plus. Mais heureusement, vous connaissez mon épouse, elle est dynamique. Hein. Elle m'a amené dur quelquefois. Hein. Je suis pas en train de régler mes comptes. Mais elle a eu raison. Parce qu'autrement, c'est le lit, la couverture et puis... Hop, plus personne. Ça vous arrive pas, ça, des choses comme ça, non ? Oh, c'est arrivé peut-être quelquefois. Hein. Alors merci de nous donner des compagnons, des compagnes, des amis, aussi des frères et des sœurs, qui, avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de tendresse et de compassion, sont là à nos côtés, qui, tout en nous comprenant, eh bien peut-être ne vont pas nous laisser non plus descendre. Parce que plus on descend, plus après, ça sera difficile à remonter. On comprend naturellement. Alors... C'est vrai que tout cela, c'est difficile. Nous aider à faire face normalement, à faire face aux obligations du quotidien. Et c'est terrible, hein, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient dépressifs. Et quand nous sommes allés les visiter, mais quel désordre. Même dans la maison. Et c'est vrai qu'ils n'avaient plus la capacité de faire le ménage, ou de faire la vaisselle, ou de ceci et cela. Quelquefois, il peut y avoir même des incidences physiques. parce qu'ils n'ont plus la force. À quoi bon ? Pourquoi ceci ? Alors, ne pouvant traiter les problèmes non résolus ne font qu'accroître, finalement, par la dépression. Et là, on se trouve devant encore une autre montagne, avec quelque chose, on se dit, mais c'est insurmontable maintenant. Ce qui aurait pu être négocié il y a un mois, il y a six mois, maintenant devient quelque chose, une véritable prison avec des portes de fer. C'est le douloureux sentiment d'être aspiré dans un tourbillon sans fin. On appellera ça la spirale. « J'oublie même de manger mon pain », nous dit le psalmiste. Phénomène bien connu, la perte d'appétit. Vous allez me dire, mais c'est pas biblique. Eh bien, pourtant, c'est pratique. Biblique et pratique. Parce que ce sont des choses dont nous avons besoin peut-être quelquefois d'entendre. Cause et conséquence de la dépression, ne plus manger. C'est un cercle vicieux. Ne plus avoir de goût pour la nourriture fait que l'on maigrit, et plus on maigrit, et plus on devient déprimé. Frères et sœurs, si vous passez par des moments comme cela, il faut que vous mangiez quand même. Vous allez me dire, mais ça c'est un traitement de médecin, c'est pas un traitement de pasteur. Eh bien, mangez quand même. Vous savez que Dieu a donné de la nourriture à Élie quand il était dans le désert en pleine déprime. Vous savez que Dieu a nourri, dans d'autres cas, des situations qui ne nous reviennent pas à l'esprit, mais des hommes qui étaient, et des hommes de Dieu qui étaient en dépression. Quelquefois, on en arrive, en fin de compte, à ne plus manger. Moi, ça m'est arrivé d'avoir par jour un petit peu de compote avec des biscuits à la cuillère. Voyez ? Enfin, à la cuillère, c'était pas la cuillère, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et ne manger que cela. Et le drame dans cette affaire, c'est que moins on mange, plus on déprime. Et pourtant, on n'a pas faim. Alors, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, mon frère et ma sœur, ne te décourage pas. Il va falloir quand même faire un effort. Et le Seigneur va t'aider dans la mesure où tu vas faire l'effort. Parce que c'est ça, ce qui te semble impossible, ça reste impossible pour toi, mais à partir du moment où tu commences à faire l'effort, le Seigneur va te donner, et émerveillement. Parce qu'à ce moment-là, dès qu'on commence à faire l'effort, de dire « Seigneur, je ne peux pas, mais tu vas m'aider quand même à le faire », eh bien Dieu va nous transcender, et il va nous donner de réaliser. Et là, nous allons être véritablement étonnés que nous sommes parvenus à faire ce que nous ne pouvions pas faire. J'oublie même de manger mon pain. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Vous remarquerez que chacun des animaux cités exprime une solitude particulière. Parce que nous saisissons quelque chose, en plus de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est que la dépression, c'est la solitude. Et la solitude, c'est terrible. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de solitude, où il y a beaucoup de solitaires, où il y a beaucoup de gens qui sont seuls. C'est le paradoxe de notre monde de communication. Vous vous rendez compte, on a des téléphones, on a Internet, on a tout ça, et finalement les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. C'est paradoxal, mais c'est notre monde. Le pélican typifie la solitude que l'on trouve dans les déserts. Ce sont des endroits désolés où il se fait entendre toutes sortes de cris lugubres. Et quelquefois, nous traversons des déserts dans notre vie. Dernièrement, une jeune fille avec laquelle je m'entretenais me disait « Mais c'est le désert de ma vie. » Ah oui, elle avait vu juste, c'est sûr, le désert de sa vie. Le déprimé entend lui aussi toutes sortes de suggestions, d'affolement de la pensée, de peur intempestive, qui n'existent pas. Mais il les entend quand même, parce que son âme est malade, parce que son esprit est malade. J'aime beaucoup, et ça m'a fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup, dans le psaume 42, verset 6, je lis. Le psalmiste dit ceci, « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Et ensuite il poursuit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Le problème, c'est que nous nous laissons dans cette période de fragilité où nous sommes si vulnérables et si sensibles, nous nous laissons là, nous nous prêtons à écouter toutes sortes de choses, et pas des choses tonifiantes et vivantes, des suggestions, des affolements de la pensée. C'est la Bible qui nous dit que dans les derniers temps, l'homme souffrira de plus en plus dans le domaine de la pensée. Vous savez, les pensées, c'est difficile à maîtriser. Et surtout quand on appelle ça la folle du logis, quand elle se met en route, il nous arrive toutes sortes d'informations, toutes sortes de choses, et c'est négatif. Et le problème, c'est que nous nous écoutons au lieu de nous parler. Écoutez bien, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Là, qu'est-ce que c'est ? C'est que je m'écoute. Mais je devrais pouvoir réagir et te dire non. Espère en Dieu. Car il est, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et nous devrions faire un petit peu comme le psalmisme, comprendre que lorsque notre âme est déprimée, lorsque nous sommes dominés, lorsque nous sommes malades, le secret de la victoire sur nous-mêmes, c'est de nous parler, de nous exhorter positivement. Au lieu de nous laisser aller, à nous enfoncer, à nous enliser dans nos pensées négatives. Et c'est pourquoi le psalmiste pourra dire, eh bien, espère en Dieu. Souvenons-nous dans ces moments-là du Seigneur, de ses promesses, de son amour, de son salut, de ses œuvres présentes et de ses œuvres passées. Est-ce qu'un jour il nous a abandonnés ? Jamais. Et il ne nous abandonnera pas. Et c'est un véritable défi à relever. Effectivement, c'est un défi. Le chat huant caractérise le sentiment que l'on ressent durant la nuit. Le déprimé erre la nuit dans sa peine en quête de sommeil, qui se refuse à venir. C'est pour ça que un des moyens les plus simples et les plus rapides, c'est de prendre des somnifères. Alors ça va un temps, mais tout le temps, c'est autre chose. Ça devient une véritable dépendance. Et il dira, mais je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil. C'est terrible, hein, quand le jour ça bouge et que la nuit ça bouge encore. Et là, c'est comme la nourriture. Vous savez, il y a des choses, ça fait partie de l'hygiène de la vie, de l'équilibre de la vie. Et les chrétiens devraient aussi apprendre, parce que ce sont des règles. C'est pas parce qu'on est chrétien que l'on doit se négliger et que l'on doit passer outre en disant, mais le Seigneur pourvoira. Oui, il va pourvoir. Mais au bout d'un certain temps, il va nous dire, tu manques de sagesse. Et maintenant, tu vas apprendre la sagesse en te reposant, en mangeant, en faisant ceci, en faisant cela, au lieu de courir de droite et de gauche. Tu es en train de brûler ta vie par les deux bouts. Et nous avons des comptes à rendre par rapport au corps que Dieu nous a donné, la manière dont nous utilisons notre vie. Et de ne pas prétexter, ah ben j'ai la foi, le Seigneur pourvoira, etc. Oui, il va nous suivre pendant un moment, et puis un moment, il va dire non, tu vas trop loin. Il faut être sage. Je suis comme l'oiseau solitaire, souvent incompris et irritable, l'anxieux s'isole, se renferme sur lui-même. Parce que le moineau est un animal qui vit en compagnie, et il est souligné qu'il se sépare délibérément d'autrui. Et il y a peut-être un problème auquel nous avons tendance à recourir. Ça dépend du tempérament et du caractère que nous avons. Mais c'est le recroquevillement sur nous-mêmes. Je ferme la porte, je ferme les volets, je me mets comme ça tout seul, puis comme ça je suis tranquille avec ma misère et ma peine. Eh bien c'est le meilleur moyen justement pour l'entretenir. Il y a des gens qui ont des réactions peut-être violentes, d'autres qui iront vers les autres, mais il y en a d'autres qui vont se recroqueviller. Et ça c'est souvent un petit peu la caractéristique du dépressif. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et il y a de vrais et réels ennemis. En tous les cas, la Bible nous dit qu'il y en a un qui s'appelle Satan. Et ça, c'est bien clair. Satan, le suggesteur, le tentateur, c'est peut-être aussi nos propres fautes, mais aussi tous ceux que l'on peut imaginer, puisque nous parlions de la pensée qui vagabondait. On croit que l'on n'est plus aimé, que l'on conspire contre nous, et quelquefois, c'est ce qui arrive. On dénature, on amplifie la réalité. Et ça, c'est aussi des phénomènes qui sont diagnostiqués. Je mêle mes larmes à ma boisson. C'est le sentiment amer de l'humiliation où l'on sent sourdre, une crainte, c'est-à-dire de dégringoler. Les dépressifs le savent très bien, cela. On marche sur les nuages, on marche sur du coton, et quelquefois on a le sentiment comme si on tombait dans le vide. Ça, c'est pas agréable. Ça vous prend là. Et puis ça monte. C'est affreux. Ceux qui connaissent, hein, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. C'est comme si on allait tomber. On essaie de se raccrocher à ce que l'on peut, mais bon, ça c'est à l'intérieur de nous-mêmes qui génère la peur panique et de tomber toujours encore plus bas. Et plus on y pense, et bien plus ça devient quelque part encore plus angoissant. Et très souvent, peut-être chez les dames, enfin, pour un rien, les larmes arrivent et viennent quelquefois l'apitoyant sur lui-même. Comme dans un autre psaume, c'est le psaume 116. « Je me disais, je suis bien malheureux. » Mais ce n'est pas parce que nous allons dire et ressasser « je suis bien malheureux » qu'on va se le dire à soi-même, qu'on va se le dire à tous ceux qui sont autour de nous, que finalement, eh bien, on va s'arranger. C'est ce que nous disions tout à l'heure dans le psaume 42. « C'est vrai que, mon âme, pourquoi gémis-tu ? Mais !» En tous les cas, Seigneur, je veux me tourner vers toi parce que tu es mon salut et mon Dieu. Il y a toujours au moins quelque chose à côté pour nous dire, eh bien voilà, il faut prendre le côté positif dans tout cela. De saisir quelque chose qui nous relève, qui nous remonte. On se sent brisé. Et le reste de la vie paraît, quelquefois, et les buts paraissent impossibles à atteindre. Et vivre, pour certains, devient une hantise, un dégoût, une corvée. On se dit, mais quelle médiocrité, mais Seigneur, pourquoi les choses sont-elles ainsi? Mais maintenant, nous allons trouver les réponses et nous allons aller vers les solutions. Fallait-il parler de la souffrance, la décrire? Fallait-il l'observer comme une grande partie de ce psaume? Parce que en décrivant toutes ces choses, quelquefois, on peut se reconnaître. Mais maintenant, nous allons voir quelque chose, la solution. Ce que le désespéré ne sait pas, c'est ceci. Ou ce qu'il a oublié, c'est que dans les cieux, il y a quelqu'un qui veille. Merci Seigneur, je ne suis pas tout seul dans ma misère et dans ma détresse, dans mes angoisses, dans ma désespérance. Je me sens si seul, je me sens si malheureux, mais il y a quelqu'un qui veille. Et il le dit, il est attentif à la prière du misérable, il ne déteigne pas sa prière. Silencieux et invisible, Dieu observe pour mieux nous secourir au moment qui sera le sien. Et vous savez, quelquefois, remonter d'une dépression, ça peut être bien progressif sur le temps, ce qui nous est arrivé. Mais remonter et sortir d'une dépression peut être aussi un acte surnaturel, immédiat, nous l'avons vécu aussi. Et on se demandait ce qui se passait. Et là, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement prenant, on se dit, mais Seigneur, mais c'est merveilleux. Et là, dont on passe des cris de douleur au cri de joie et d'allégresse. Bien que tu dises, et nous l'avons vu dernièrement dans une réunion d'évangélisation un vendredi soir, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Peut-être que vous avez un fond de dépression, mais le Seigneur ne va pas vous laisser comme ça. L'esprit ou l'espoir soutenu, les yeux au ciel. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs. Et quand il regarde, qu'est-ce que Dieu voit? Il regarde et il voit un océan immense de misère autour de lui, et même quelquefois au milieu de son peuple, pour délivrer ceux qui vont périr. Dans l'infinie détresse humaine, il existe deux sortes de cris. Le cri de la révolte, et il y a le cri de la foi. Vous savez que dans l'Évangile, on entend souvent des cris de foi. Eh oui, Bartimée, la Cananéenne, les uns, les autres, « Seigneur Jésus, viens à mon secours. » Aie pitié de moi, Seigneur. Ce sont des cris de foi. Il a brisé ma force sur la route. Et là, c'est important ce qu'il est dit là. Il a brisé ma force sur la route. La force de l'homme pécheur. Et nous pouvons être, c'est vrai, nous sommes des hommes, nous vivons et nous partageons encore cette humanité. La différence, c'est que nous sommes rachetés. Mais n'oublions pas que nous pouvons pécher encore. Que nous péchons encore. Eh bien, la force de l'homme, c'est son incrédulité et son endurcissement. Et quand nous sommes bas à l'intérieur, quelquefois, nous disons, mais à quoi bon? Ça peut s'appeler de l'endurcissement. Les vagues incessantes de l'adversité ont cassé enfin l'élan du plus fort, sa vitalité débordante, et il a perdu son assurance, ses prétentions, son arrogance. Et quelque part, la dépression est permise par le Seigneur pour nous apprendre que nous sommes si faibles et que nous ne sommes pas grand-chose. C'est arrivé à des forts de passer par la dépression. Et par la dépression même, Dieu lui a enseigné qu'il n'a pas toujours été très tendre, très gentil, qu'il a été impitoyable avec les autres. Et ça, tout le monde peut y passer, même des serviteurs de Dieu. C'est bien de se servir des principes de la parole, mais pas pour faire du mal, pour faire du bien. Et quelquefois, nous devons passer par ce genre d'expérience. J'ai connu un frère dans le ministère, je le connaissais peu, mais c'est lui qui me l'a raconté. Et connaissant un peu ce qu'il était, un jour il m'a dit, « Je suis passé par une dépression, mais terrible, et aujourd'hui je ne suis plus le même homme. » Eh oui, parce que avant, c'était quelqu'un, une personnalité, une autorité, on peut dire, il avait une carrure. Mais vous savez, quand on passe par là, quand on touche le fond, eh bien, ça change les donnes, finalement. Ça peut changer beaucoup de choses. Et parfois, je dois me dire, eh bien, si tu me fais passer par là, il y a certainement deux buts, Seigneur. Le premier but, c'est peut-être pour ma personnalité, mon tempérament, mon caractère, pour m'adoucir. Et puis le deuxième but, c'est qu'après, je pourrai comprendre les autres qui y passent. C'est très pédagogique, hein, avec le Seigneur. Rien n'est gratuit et tout a un sens. Alors je passe par là et je me dis, mais Seigneur, pourquoi ? Et je l'ai dit et je le répète, hein, quand on a affaire à des gens qui sont pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pas de leur sortir des versets bibliques les uns après les autres, comme ça, en alignement. Quelquefois, il n'y a même pas un mot à dire. Il suffit d'être tout simplement à côté d'eux et ils lisent déjà dans notre regard quelque chose. Vous savez, on peut parler aussi par nos attitudes, on peut parler d'une autre manière qu'avec nos paroles. Et les gens le sentent. Et ils vous le diront plus tard. Ce qui m'a fait du bien, c'est que vous étiez là et vous m'avez compris. On n'a rien dit. Non, mais on était là. Et on a prié avec eux, parce que vous savez, le plus important, c'est pas tant ce qu'on peut dire et puis de multiplier les paroles auprès de quelqu'un qui est pas bien. C'est ce que nous pouvons faire entre la personne qui est malade, la personne qui va prier, puis le Seigneur que nous prions. Et là, c'est encore une autre affaire. La faiblesse de l'homme, désormais, va lui apprendre à ne compter que sur Dieu seul, naturellement. L'épreuve est un mal pour un bien, peut-on le dire de cette manière, qui pousse à la réflexion. Qui suis-je au regard de Dieu ? Je suis qu'un souffle, un être limité, fragile et mortel. Et puis dans tout cela, peut-être mon assurance va tomber, certaines assurances, certaines prétentions et même peut-être des ambitions. Le psaume 103, et je vais terminer sur quelques notes, enchaîne et conclut à nous amener à reconnaître honnêtement que la véritable vie n'est pas celle que peut-être nous avons vécue. Ou que nous avons peut-être à découvrir encore une autre dimension de notre vie. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours, nous allons d'étape en étape. Nous pensions pas que ça soit possible, ceci et cela, et puis Dieu nous ouvre de nouvelles portes. Mais les nouvelles portes que nous passons, eh bien, vont nous faire découvrir de nouveaux horizons. Et quelquefois, ça suppose qu'il faut que nous passions par des pertes. Et je l'ai dit et je le répète, le mot « perte » et le mot « porte », il n'y a qu'une différence. Vous enlevez le « o » et vous mettez un « e » ou vous enlevez le « o » et vous mettez un « o ». Parce que nos pertes sont souvent des portes qui nous font rentrer dans de nouveaux horizons. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à la stratégie bienveillante du Seigneur. D'ailleurs, c'est la règle dans l'Évangile. Si tu veux garder, tu vas perdre. Mais si tu veux perdre, eh bien, on va te le redonner. Mais ça sera anobli. Ça sera complètement changé. Nous avons dans ce psaume 103, et brièvement, quelques vérités relatives à la délivrance et quelques paroles favorables à un nouveau départ. Le verset 1, il est dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » D'abord, reconnaître que tout vient de Dieu. Ça, c'est la règle. C'est bien fait, parce que c'est vrai que nous pouvons avoir des souffrances sur la terre. Mais est-ce que vous ne croyez pas que nous passons souvent à côté des bienfaits de la grâce du Seigneur ? Ils sont tellement habituels et tellement présents dans notre vie. Alors il le dit, hein, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits contre l'indifférence et l'ingratitude coupable, qui est souvent le propre de notre humanité et quelquefois même de nous-mêmes. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, avons-nous lui, là où il y a remise en cause sérieuse, et nous l'appelons la repentance, il y a pardon. Et l'acceptation dans la foi du pardon de Dieu enlève le sentiment de la culpabilité, parce que une chose qui est certaine, c'est que avec la dépression, l'angoisse, il y a beaucoup de culpabilité. Alors il faut faire la différence et il ne faut pas hésiter à le dire, il y a une vraie culpabilité qui est liée au péché, notre péché. Et il y a une fausse culpabilité qui est exploitée par le diable. Et très souvent, dans le peuple de Dieu, nous voyons que le diable met le paquet. Vous n'oubliez pas que dans le livre de l'Apocalypse, il est appelé l'accusateur des frères. Et quand il peut nous mettre dans une situation d'inertie ou d'écrasement, là où nous sommes complètement pulvérisés par la culpabilité, il se frotte les mains parce qu'il se dit maintenant il ne bouge plus. Je les ai anesthésiés pour un bon bout de temps. Ils sont culpabilisés à mort. Ils sont malades de cette culpabilité. Et la culpabilité, c'est le facteur numéro un de la dépression. Parce que vous êtes dépressif, vous culpabilisez, et cette culpabilité va vous amener à encore déprimer davantage. Et c'est pour ça que nous avons lu ce texte formidable. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et il faut croire que Dieu pardonne. Hey. Nous péchons tous, d'une manière ou d'une autre. Nous recourons à la repentance. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut croire que Dieu, eh bien, nous pardonne. Et je crois que Dieu me pardonne. Mais si je retiens les péchés que Dieu m'a pardonnés, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avançons plus? C'est pas possible. C'est lui qui pardonne. Le principe de la guérison est dans le pardon, frères et sœurs. On a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu formidable, parce que c'est un Dieu de pardon. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Vous avez remarqué le rapport qu'il y a entre finalement l'acceptation du pardon et puis la guérison de nos maladies. Combien est lié les perturbations corporelles et organiques au sens moral et intérieur. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Le médecin regarde, il se dit « Mais moi, je ne vois pas ce que vous avez. » Mais c'est l'âme qui est malade. Guérir dedans est souvent guérir dehors. C'est pour ça que l'évangile est complet, il est total. Il est question de salut et de guérison. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. En d'autres termes, il te rachète. Et ça, il ne faut jamais oublier que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons un Rédempteur. La vraie délivrance de la mort, finalement, c'est la résurrection. Et moi, je crois aussi à la résurrection. Espérance suprême qui fait de la mort, finalement, le portail d'entrée dans une autre vie, glorieuse et heureuse. Et je crois qu'il y a des résurrections successives dans notre vie, même ici-bas. Mais il faut mourir. Il faut apprendre à mourir. Et on renaît à chaque fois. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes aimé de Dieu? Toujours. Toujours. Quelquefois, on se dit, oui, il y a des moments, ça va, on est bien. Hein? Enfin, façon de parler. Mais il y a des moments, on se dit, Seigneur, tu ne dois pas beaucoup m'aimer. Hein? On peut avoir ce sentiment. Ce savoir aimé de Dieu et non condamné, ça crée de la confiance. Il faut que notre vie soit là, appuyée sur un terrain de confiance. Et ça, c'est l'antidote contre l'angoisse. Pourquoi les gens sont-ils angoissés? Parce qu'ils ont peur, ils sont dans la crainte. Ils tremblent. Mais un chrétien doit pouvoir passer tout cela, surmonter tout cela. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse. Merci Seigneur, parce que nous avons au milieu de nous, dans nos églises, des frères et des sœurs qui nous ont donné le témoignage qu'ils ont été jusqu'au bout, qu'ils vont jusqu'au bout. Ils ont déjà une couronne d'argent sur la tête. Et on voit que Dieu s'occupe d'eux. Il rassasiera ta vieillesse de bien. Jusqu'à la fin, Dieu sera fidèle. Alors pourquoi s'inquiéter? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas pris soin de nous jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il nous a laissé manquer de quelque chose? Eh bien, jusqu'au bout, il sera là. Enfin, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voyez, il était question de vieillesse, maintenant il est question de rajeunissement. L'aigle est un oiseau royal, qui est l'emblème, l'image emblématique de certains grands pays. Il paraît que son plumage se renouvelle totalement ou partiellement, je ne sais pas, chaque année, c'est ce que j'ai lu. Et il paraît toujours jeune. Enfin, j'ai jamais regardé un aigle comme ça de très près. Mais toujours est-il que ça, c'est un petit peu la zoologie qui nous l'enseigne. Il paraît toujours jeune. Dieu est là. Dieu est la force vitale du croyant qui trouve par la foi, eh bien là, le maintien, l'équilibre, le renouvellement permanent. Paul l'a exprimé, hein, si notre homme extérieur se dégrade, de jour en jour, notre homme intérieur se renouvelle aussi de jour en jour. Il y a là un travail parallèle qui se fait à notre insu, mais la parole le dit, nous devons le croire. Et c'est vrai que parfois nous avons vu des personnes âgées qui sont plus jeunes que des jeunes de 20 ans, qui sont déjà tout... sont latents, qui sont fatigués, qui sont... Bon, on comprend 20 ans qu'on peut être fatigué, hein. C'est vrai. Mais quelquefois, il y a une vitalité chez certaines personnes âgées, on se dit, mais Seigneur... Et puis une foi, comment on dit, la tchatch. Eh oui, il y a quelque chose, mais ça c'est Dieu qui crée ça, frères et sœurs. C'est formidable et ça fait du bien de voir et d'être en compagnie de ses frères et de ses sœurs. Dieu guérit. Et Dieu commence par guérir notre âme, il guérit notre esprit, il guérit notre cœur. En le transformant, il nous a sauvés. Et il travaille à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Et comme l'aigle, libre de tout fardeau, s'élève vers les cieux, eh bien l'homme de foi trouve en Dieu des forces nouvelles, une jeunesse intérieure, une vie nouvelle. Et le secret, alors le secret, il est très simple, on va aller chercher dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui l'écrit, et il dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, il y a là une parole extraordinaire qui nous est donnée, mes frères et sœurs. Faut-il le rappeler? Faut-il le prêcher? Faut-il y revenir? Faut-il être exhorté tout à nouveau? Je ne sais pas quelle a été la qualité de votre semaine, mais peut-être que vous avez passé une mauvaise semaine, ou vous avez passé les derniers temps en difficulté. Vous vous dites, mais Seigneur, j'aurais besoin de quelque chose. J'aurais besoin de quelque chose de nouveau. Eh bien, Dieu va vous donner quelque chose de nouveau. Pourquoi t'as battu mon âme? Et je peux le répéter encore. Pourquoi gémis-tu au dedans de moi, espérant Dieu? Car je le louerai encore, parce qu'il y a encore de l'avenir, parce qu'il est mon salut, et parce qu'il est mon Dieu. Alors mes frères et sœurs, qui êtes accablés, qui êtes découragés, qui êtes désespérés, pourquoi l'êtes-vous? Pourquoi l'êtes-vous? Alors je peux comprendre que vous pouvez l'être. Mais d'y rester, on ne peut pas le comprendre. Puisque le Seigneur nous tend la main, et il nous dit « Viens ». J'ai quelque chose de formidable pour toi. J'ai un souffle nouveau. J'ai là un temps de rafraîchissement parce que j'ai vu ta souffrance, parce que j'ai vu ta peine. Je sais et je comprends ta solitude. Je comprends que là, eh bien, tu as été tourmenté par différentes choses. Mais viens vers moi. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu et tu le loueras encore parce qu'il est ton salut, parce qu'il est ton Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prier quelques instants. Et priez particulièrement peut-être sur ceux qui en ont particulièrement besoin. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu sais, Seigneur, que nous sommes que des êtres fragiles. C'est vrai, Seigneur, que tu as fait de grandes choses dans notre vie. Tu es venu nous chercher dans notre péché. Et tu as fait un travail considérable, merveilleux, impensable, à travers le sacrifice de Jésus. Et pourtant, nous sommes renfermés dans un corps avec toute notre fragilité. Notre être, Seigneur, notre être physique, notre être moral et notre être spirituel, nous ne devons pas l'oublier. Reste, Seigneur, renfermé, tout simplement, Seigneur, dans une vie qui est une vie précaire. Alors, c'est vrai que nous connaissons toutes sortes de choses. Nous pouvons connaître toutes sortes de maux, de souffrances, de douleurs, visibles ou invisibles, avouées ou non avouées. Mais Seigneur, une chose qui est certaine, c'est que tu es venu pour donner la paix au fond de notre cœur. Tu es venu, Seigneur, vers nous pour nous rassurer. Tu es venu, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es venu pour nous tranquilliser. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs qui ont besoin d'être tranquillisés, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir une nouvelle vision pour repartir et qui pourront dire, eh bien, en effet, j'espère en Dieu parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il est mon salut. Alors c'est vrai, Seigneur, que au lieu d'écouter mon âme, je veux parler à mon âme et je veux lui dire, espère en Dieu. Tu bénis mes frères et mes sœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen.